Théologie en liberté. Au micro, Joël Baumann, bonjour. Jean-Luc Blanc a été pasteur de longues années au Maroc, obligatoirement investi dans le dialogue interreligieux, donc islamo-chrétien, à plus d'un titre. Et revenant en France, il a été, comme il le dit lui-même, monsieur dialogue islamo-chrétien pour le service mission, le DEFAP. Et il fait partie de la commission islamo-chrétien aussi à la Fédération protestante de France. Nous l'avons eu lors d'une pastorale des retraités ici à Nîmes. Et je pensais qu'il était intéressant que nous puissions l'entendre ici dans notre émission pour vous en faire profiter.
J'ai été embarqué dans la commission des relations à l'islam de la Fédération protestante de France. Et puis, bon, j'ai eu beaucoup d'amis musulmans, et puis, dans la paroisse où je suis, je pouvais guère faire autrement. On accueille un groupe de musulmans qui utilisent nos locaux pour venir prier et faire leurs différentes rencontres et réunions. Et ce qui nous permet de développer un lien avec eux, et d'avoir un groupe de musulmans qui prie dans les locaux de ex-ERI à Anduze, quand même, et pour dire que même au cœur des Cévennes, le dialogue islamo-chrétien est possible. Et si je dis cela, ce n'est pas simplement pour mettre en avant ce que je fais actuellement, c'est pour souligner le fait que le temps de l'identification des religions avec un territoire est derrière nous. Aujourd'hui, on le sait très bien, la France n'est plus un pays chrétien, il y a des musulmans en France, et les pays musulmans, de plus en plus, accueillent des chrétiens de tous bords. Au Maroc, ce sont surtout des chrétiens subsahariens, africains, mais ça a obligé le Maroc à changer un certain nombre de lois du pays, le fait d'accueillir ces chrétiens. Et donc, il n'y a plus de terre d'islam, même si le terme est employé par certains, peut-être en Arabie Saoudite, mais à part ça, et il n'y a plus de terre chrétienne. Les chrétiens et les musulmans sont appelés à se côtoyer, à se croiser, et c'est le propre de c'est une des conséquences de la mondialisation. Hein. On ne se croise pas que physiquement, on se croise aussi sur Internet, on se croise sur les réseaux sociaux, etc. etc. Donc le dialogue est incontournable. On ne peut pas éviter de se parler. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est que le dialogue interreligieux, du coup, n'est pas qu'une affaire de croyants. On trouve des politiques qui s'intéressent au dialogue interreligieux, non pas pour des raisons théologiques, mais pour des raisons diplomatiques. On trouve des hommes d'affaires qui s'intéressent au dialogue interreligieux, non pas parce qu'ils ont envie d'une spiritualité autre, mais parce qu'ils ont bien compris que pour vendre leurs entreprises au monde musulman, c'est peut-être bien de le connaître, et vice-versa. J'ai participé dans cet esprit à des rencontres de l'IMRI, de l'Institut marocain des relations internationales, quand j'étais au Maroc, avec des hommes d'affaires qui voulaient comprendre le christianisme et les autres versions de l'islam, hein, le chiisme. Ils ont dépensé pas mal de temps pour ça, parce qu'ils estimaient que c'était absolument nécessaire pour développer leurs entreprises dans ces pays-là. Donc le dialogue interreligieux dépasse le cadre des églises. J'ai participé aussi à la formation des jeunes diplomates marocains qui tous doivent faire une formation au dialogue interreligieux avant de partir dans les différents pays du monde. En France, ça se fait toujours, à une rencontre de quelques minutes avec l'un des responsables de la Fédération protestante ou du DEFAP. C'était très, très réduit pour les diplomates. Mais au Maroc, c'était une vraie formation. Et puis, dans un tout autre domaine, j'ai été invité à participer à un colloque où je n'ai pas compris grand-chose. D'ailleurs, c'était financé par la Fondation Templeton, un colloque de scientifiques du monde entier. Ils avaient sélectionné 70 scientifiques au top dans leur niveau, musulmans, chrétiens, bouddhistes, je ne sais plus quoi encore, en leur demandant de se poser la question du sens religieux de leur recherche. Et c'était organisé par c'est l'université d'Ifrane qui accueillait ce colloque, où là aussi, c'était pour des raisons scientifiques que ces gens se posaient la question de l'influence des religions sur les recherches scientifiques qu'ils menaient. Voilà. Tout ça pour dire que le dialogue interreligieux dépasse le cadre des églises, et souvent d'ailleurs les églises sont un pas en retrait par rapport à tous ces gens qui s'intéressent au dialogue interreligieux et qui viennent vers les églises pour leur demander comment il faut faire. Au Maroc, lieu où j'ai découvert ce dialogue interreligieux, le dialogue interreligieux est beaucoup plus présent que ce que je l'imaginais avant. Le dialogue interreligieux fait partie de la vie, des autorités marocaines, de ceux qui ont côtoyé des étrangers, beaucoup. Je ne dis pas au fin fond du bled, je ne suis pas sûr que ça soit leur vraie question. Et vous savez que l'entourage du roi du Maroc a toujours été très ouvert au dialogue interreligieux. Hassan II, l'ancien roi, a été élevé par une protestante qui lui lisait la Bible tous les jours. Il faut le savoir. Et du coup, il a toujours voulu développer ce dialogue, d'où la création de cette université à Ifrane, dédiée au dialogue entre les cultures et les religions, université dans laquelle il y a un culte toutes les semaines, il y a un aumônier, il se trouve que c'est une protestante, mais une aumônière protestante qui est la pasteur Karen Smith, et qui est là depuis longtemps, mais il y a un aumônier chrétien, ça pourrait être un catholique, il y a un aumônier chrétien dans l'université qui a tout à fait sa place dans cette université, qui est une université qui n'est pas une université de théologie. Il y a un département de théologie, mais qui est tout petit, et c'est une université qui enseigne toutes les disciplines, et qui est l'université royale du Maroc, c'est-à-dire qui est rattachée directement au palais. Dernière anecdote dans ce cadre-là, quand le roi a nommé celui qui est le ministre des Affaires islamiques actuel, Ahmed Toufik, ce dernier nous a invités, l'archevêque et moi-même, pour un petit déjeuner chez lui, et il nous a proposé de nous voir une fois par mois, car nous a-t-il dit, je veux vous inviter une fois par mois chez moi, pour qu'on prenne le temps du partage et de l'échange. Ce sont les hommes de foi que je veux rencontrer, ce ne sont pas les institutionnels. C'est pour ça que je ne vous invite pas au ministère, mais chez moi. Mais je veux qu'on ait un véritable dialogue en profondeur, dans la durée. Et ça a fonctionné. Je ne sais pas si ça fonctionne toujours, mais en tout cas, ça a fonctionné le temps que j'étais au Maroc. Et c'est donc le ministre des Affaires islamiques actuel qui est là depuis 2005. Donc, 20 ans. Voilà, donc le dialogue interreligieux est aussi l'affaire des musulmans. Vous voyez que dans les pays musulmans, ils ont toujours cherché à développer, en tout cas dans un pays comme le Maroc, mais d'autres aussi, j'y viendrai tout à l'heure, à développer ce dialogue.
Théologie en liberté sur Radio Alliance Plus, nous sommes avec le pasteur Jean-Luc Blanc et le dialogue islamo-chrétien.
Quelques mots sur la manière dont je vois les fondements théologiques chrétiens du dialogue interreligieux. Moi, j'ai toujours trouvé intéressant de s'appuyer sur les personnages et les groupes charnières que l'on voit dans la Bible, plutôt que de se focaliser sur les ennemis d'Israël, par exemple, dans l'Ancien Testament. Mais on se rend compte que les ennemis d'Israël n'étaient pas toujours ennemis. À certains moments, ils étaient amis. Et dans la Bible, on trouve un nombre de personnages charnières vraiment importants. Et ces personnages nous permettant de construire une réflexion sur ce dialogue entre les religions. Très récemment, il y a eu un article de Danny Noquet dans ETR sur ces gens-là. Alors, je ne sais plus si c'est les mêmes que ce que je vais citer, mais où il montre que dans l'Ancien Testament, il y avait un véritable dialogue interreligieux entre certains groupes et Israël. Je pense au personnage d'Ismaël, bien sûr. Je rappelle qu'Ismaël reçoit la même bénédiction qu'Isaac. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas qu'Israël qui reçoit la bénédiction, enfin, via Israël, via Isaac. Ismaël a la même bénédiction d'Abraham. Et on sait ensuite toutes les relations complexes qu'il y aura entre les descendants d'Ismaël et ceux d'Isaac. Le personnage de Jéthro, qui moi je trouve savoureux. Jéthro, il était prêtre de Madian, donc une autre forme de monothéisme d'origine abrahamique, hein, puisque Madian était un des descendants d'Abraham via Ketura, l'autre femme d'Abraham. Et Jéthro était prêtre de Madian, et il vient voir son gendre Moïse, et il lui donne des conseils que Moïse suit. Et la relecture que le Deutéronome fait de cet épisode, c'est que par la bouche de Jéthro, Dieu parlait à Moïse. C'est quand même intéressant de voir que Dieu a parlé à Moïse, le grand Moïse, par la bouche d'un prêtre, d'une autre religion. Et il a recadré son gendre et qui a accepté d'être recadré par lui. Et finalement, il a offert le sacrifice avec Aaron. Hein, ouais, le prêtre d'une autre religion qui offre le sacrifice avec Aaron, si ça, ce n'est pas du dialogue interreligieux. Il y a l'histoire de Naaman, que vous connaissez, la femme cananéenne dans l'Évangile, qui est la seule qui fasse changer Jésus d'idée et d'orientation, et qui, elle aussi, était d'une autre religion. La femme samaritaine, même si les samaritains étaient très proches du judaïsme, c'était considéré comme une autre religion, etc. On pourrait multiplier les exemples de textes bibliques qui peuvent nous servir de base pour construire théologiquement et bibliquement un dialogue interreligieux. La manière dont on utilisait ces textes et dont on les utilise toujours pour construire un dialogue interreligieux pourrait se résumer par un mot, le mot de vulnérabilité. C'est un mot que ma collègue Karen Smith au Maroc employait tous les jours. Et que je reprends très volontiers. Il me semble qu'il y a quelque chose d'incontournable là pour être témoin d'un Dieu vulnérable. Comment dire ? On ne peut pas le faire en montrant ses muscles. Voilà. On ne peut pas être témoin du Dieu de la croix en montrant ses muscles, en montrant qu'on est la meilleure religion du monde à ceux qui sont en face. Il faut qu'on accepte d'être véritablement vulnérable. On se rend compte que ces personnages de la Bible, y compris Jésus face à la femme cananéenne ou la femme samaritaine, ont fait preuve d'une vulnérabilité étonnante. Je voudrais donc maintenant passer à une autre étape. Vous savez, on peut aborder l'islam à partir de tous les intégrismes, de tous les extrémismes. Les choses sont beaucoup plus claires, au moins. Hein, c'est beaucoup plus clair de prendre les islamistes les plus terribles, et le Hamas ou d'autres, et de s'attaquer à eux. Vous comprenez bien que ce n'est pas le choix que je fais. J'ai souvent dit, laissons ces gens-là à la police, à l'armée quand même des fois, parce que les plus guerriers, il faut les laisser à l'armée, ou aux politiques, ou à ceux qui font la loi. Mais nous, théologiens, préoccupons-nous de ceux qui veulent dialoguer, de ceux qui sont inscrits dans une dynamique théologique, pas dans une dynamique politique ou guerrière. Donc, je laisse de côté ces courants-là. Ce n'est pas que je les ignore, c'est que je sais bien qu'ils font partie de l'islam aussi. mais c'est que je crois que notre rôle, c'est de développer des relations avec les courants de l'islam, qui sont des courants qui recherchent justement la relation et qui veulent la développer. Dans son histoire, le protestantisme en tant que tel n'est pas resté à l'écart de l'influence musulmane. Ce n'est pas nouveau qu'on s'intéresse au dialogue islamo-chrétien. Vous avez peut-être lu l'ouvrage de Pierre-Olivier Leschaud, Luther et Mahomet. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Ah, il faut lire ça, c'est absolument remarquable. Il passe en revue tous les lieux de rencontre, plus ou moins conflictuels, entre les deux religions du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe. Voilà. Et j'ai découvert des tas de choses là-dedans. Alors, je ne vais pas résumer son livre, hein, mais en tout cas, il montre que l'islam n'a pas toujours été perçu par les théologiens protestants comme il est perçu aujourd'hui. On s'en doutait un peu que la théologie évoluait, mais il nous le montre, ce qui est bien, en citant de nombreux textes. Par exemple, déjà au XVIe siècle, on assiste à un rapprochement entre les protestants anglais et certaines puissances musulmanes. Alors, ces rapprochements, donc, contrairement à ce qui m'a été objecté, parce que j'en ai parlé une fois, et il y avait le responsable du musée du désert qui m'a dit, d'accord, parce que Pierre-Olivier Leschaud a fait une conférence au musée du désert, d'accord, mais ça, ce sont les intellectuels. Mais le peuple a été complètement hermétique à tout cela. C'est resté juste une histoire entre quelques intellectuels. Et d'après ce que j'ai pu découvrir en lisant ces ouvrages, c'est que ça n'a pas été que le cas de théologiens et d'intellectuels, puisque au début du XVIIIe siècle, des rapprochements entre protestants et musulmans ont eu lieu, tenez-vous bien, sur les galères. Il y a eu des rapprochements étonnants. Où il y avait 20% de musulmans sur les galères, hein, où on envoyait les huguenots. Et Pierre-Olivier Leschaud note qu'un certain nombre d'entre eux ont voulu avaient demandé à être enterrés dans les mêmes tombes, symboliquement. Ce qui veut, hein, c'est quelque chose de très fort, symboliquement. Donc, voilà, tout ça pour dire que ce dialogue interreligieux, entre le protestantisme et l'islam, est dans l'histoire beaucoup plus riche que ce que moi, personnellement, je l'imaginais avant de m'être plongé dans ces choses-là. Alors, peut-être que vous, tout ça, vous le savez. Hein. En tout cas, moi, je l'ai découvert grâce à Pierre-Olivier Leschaud. Alors, comme je disais, plutôt que de chercher les lieux de conflit, plutôt que de m'intéresser à cette théorie du choc des civilisations, dont vous avez, je suis sûr, entendu parler, j'ai toujours préféré chercher les points de rencontre, un peu comme Pierre-Olivier Leschaud le fait dans l'histoire. Et donc, parmi tous ceux qui constituent des points de rencontre entre islam et christianisme, je voudrais parler d'abord de ces chrétiens qui prient à la mosquée, qui sont des convertis, qui vont à la mosquée et qui restent des personnes charnières parce qu'ils ne rejettent pas leur passé et continuent à aimer leur passé. Mais ça fonctionne dans les deux sens. Vous savez, la responsable du groupe de musulmans qui vient prier chez nous, là, à Béthany, elle est venue me demander une salle de réunion que j'étais là. Et je dis, mais comment vous avez su qu'on avait des salles de réunion ici, à Béthany, et vous connaissiez ? Je dis, ben oui, j'ai fait tout mon catéchisme. et elle m'a raconté un peu sa vie. Elle était... Elle avait une démarche de foi en étant pendant son catéchisme. Et puis, elle nous trouvait quand même un peu sec, pas assez mystique. Et elle a trouvé donc ce mysticisme qu'elle recherchait chez les musulmans. Et donc, elle va prier chez les musulmans. Mais ça lui faisait très plaisir de venir prier chez nous. Et du coup, on a eu une rencontre. C'est eux qui ont souhaité qu'on ait une rencontre. On a eu une conférence avec Jean-Claude Basset et d'échanges sur ces mêmes questions que celles que nous traitons aujourd'hui. Puis ils ont dit, mais nous, ça ne nous suffit pas. On veut prier avec vous. Alors, faire prier des Cévenols de l'ERI avec des musulmans, c'est, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Mais bon, je n'ai pas grand-chose à perdre. Donc, j'ai dit, allons-y. Et j'ai organisé une rencontre. Alors, où d'abord, on a prié, les protestants ont prié avec les musulmans. On a mis les tapis et tout, hein. Sur le tapis, il y avait une Bible et un Coran, il y avait des bougies. On avait fait le décor d'une mosquée, un peu, d'une salle. Voilà. Et donc, ils ont expliqué pourquoi on priait comme ça chez les soufis. Et ils ont entraîné les protestants à prier avec eux. Ça a très bien fonctionné. Mais ils avaient dit aussi, nous voulons prier avec vous, protestants. Et... alors je leur ai proposé des... Ils ont dit, on veut prier, on sait que vous chantez, on veut chanter avec vous, on veut chanter à toi la gloire. J'ai mis, il y a des trucs peut-être un peu plus musulmans que à toi la gloire au ressuscité. On veut prier avec vous. Vous faites l'effort de prier avec nous, nous on veut prier avec vous et on veut chanter à toi la gloire et on veut prier de notre Père au moins avec vous. Et de voir les musulmans aussi chanter à toi la gloire à gorge déployée et prier notre Père, ça avait quelque chose de savoureux. Et depuis, cette dame qui avait fait le lien au début, ben, elle reste musulmane, mais elle s'est remise à cotiser à la paroisse. Donc, c'est... Bon, voilà. Ouais. En disant quand même, il faut que je soutienne l'Église. Voilà, c'est un lieu charnière, et ça, c'est pas loin de chez nous. Hein. On va pas le chercher au Sénégal ou au Cameroun, c'est un lieu charnière à Anduze, dans les Cévennes. Donc, entre les deux religions, il n'y a pas rien. Il y a des gens qui revendiquent leur attachement à Jésus-Christ tout en priant chez les musulmans ou vice-versa. Écoutez, l'un d'entre eux, que je vais citer, donc Mazhar Maloui, il a écrit un non. La plupart des Occidentaux ne peuvent pas comprendre que l'islam est la couverture dans laquelle ma mère m'a enveloppé quand elle m'a allaité, quand elle m'a chanté des berceuses, quand elle a prié pour moi. Il s'est converti au christianisme, hein, après, c'est pour ça qu'il dit. J'ai été imbibé d'islam au travers du lait de ma mère. Il a été le berceau qui m'a recueilli jusqu'à ce que je trouve Christ. L'islam est ma mère. Tu ne peux pas éveiller quelqu'un un jour en lui disant que sa mère est répugnante. Et il continue ailleurs dans ce même bouquin. Est-ce que nous ne serions pas libres, alors il sous-entend, nous, musulmans, qui voulons suivre le Christ, de suivre Christ sans être forcés d'adopter 2000 ans de culture religieuse occidentale? Comment quelqu'un du dehors peut-il avoir une idée de l'impact de nos pratiques sur nos cœurs? C'est-à-dire de continuer à aller à la mosquée tout en étant chrétien, c'est ce qu'il veut dire. Si nous disons que nos pratiques religieuses n'annulent pas ce qui est dans nos cœurs, comment d'autres peuvent-ils nier la vérité de notre foi? Et c'est un évangélique qui a dit sa difficulté à entrer en dialogue, en relation avec l'univers des églises réformées, en disant, vous donnez beaucoup trop d'importance à l'histoire, les réformés, à l'ecclésiologie. Pour nous, vous nous faites entrer dans un autre monde. Et on le comprend bien. Chez les évangéliques, c'est plus facile parce que l'ecclésiologie et l'histoire ayant beaucoup moins d'importance, je peux continuer à aller à la mosquée en allant au culte. Je ne suis pas obligé d'entrer dans la structure. C'est étonnant hein, comme réaction, mais voilà. Et il cite aussi dans un autre ouvrage ou un autre article cette anecdote. Il dit « Un jeune homme en Afrique du Nord se convertit au christianisme. Il décide donc de ne plus faire le ramadan. » C'était un de ses convertis, voilà. Et dès lors, sa sœur commence à lui faire son déjeuner. sa sœur musulmane pratiquante. Et Maloui se demande alors, dit, quelle attitude est la plus proche de ce qu'aurait fait Jésus ? Celle de la sœur ou celle du frère ? Voilà, il brouille pas mal les cartes, cet homme. Alors, ce sont des cas emblématiques. Hein. Bien sûr, ils ne sont pas seuls. Sinon, ça n'aurait pas de, ça n'aurait pas de sens. C'est qu'ils, chacun de ces cas, derrière eux, ont des tas de gens qui pensent la même chose. Parmi tous ces personnages charnières, il y a tous les couples mixtes. Je ne vais pas raconter trop d'anecdotes maintenant, mais j'en ai vu tellement autour de moi au Maroc, de ces couples mixtes qui vivent très très bien la rencontre entre les deux religions. Il y en a qui le vivent mal, hein, mais encore une fois, je vous dis, j'ai voulu me focaliser sur ceux qui le vivent bien. Nombreux sont ceux qui le vivent bien. Les musulmans venant au culte de temps en temps pour accompagner leur conjoint et vice-versa. On pourrait relater de nombreux exemples de ces personnages charnières, de ces musulmans qui vont au culte, mais qui sont musulmans. Voilà. Ma collègue me disait que selon les périodes, elle a plus de musulmans à son culte que de gens officiellement chrétiens. Voilà. Donc tous ces musulmans convertis, on aurait pu s'attendre à ce que ces gens soient anti-musulmans, puisqu'ils étaient passés de l'islam au christianisme. Eh bien, absolument pas. Absolument pas. J'ai découvert une église qui avait réussi à trouver une manière d'être dans un pays musulman qui ne soit pas une négation de l'islam, mais qui soit considéré comme, qui considère ça comme un complément, comme une, je ne sais pas comment il faudrait le dire. Je vois que l'heure avance. On est... oui. Peut-être que je peux m'arrêter là. Voilà. Je voulais juste dire... je résume en un mot ce que j'aurais dit par la suite. Voilà. C'est que... voilà, je voulais aborder la question du choc des civilisations, du rapport entre l'islam et l'Occident, montrer que c'est une histoire de rapport de force et que justement, en tant qu'Église, on ne peut pas entrer dans ce rapport de force et que c'est cette fameuse vulnérabilité qui nous permet de répondre à l'humiliation du monde musulman. Vous savez que c'est une grande question, c'est le monde musulman qui se sent humilié par l'Occident pour de multiples raisons et qui... moi, je suggère de répondre à cette humiliation par l'humilité et la vulnérabilité, non pas par, non pas en jouant sur cette humiliation des musulmans, mais en répondant par l'humilité. Voilà, c'était ce que j'aurais développé si j'étais allé plus loin, mais je pense que c'est mieux de s'arrêter là et d'avoir un échange.
Eh bien, merci Jean-Luc Blanc. Et oui, alors c'est le moment de l'échange, donc le moment où vous pouvez écrire un commentaire sur la page du podcast de l'émission sur radioallianceplus.fr. Et nous vous y attendons. À bientôt. Au revoir.